Bonjour à tous. Il est facile de dire bonjour quand il fait 77 degrés dehors. C'est à peine croyable, et ce sera le cas toute la semaine prochaine. C'est difficile à croire, et il en sera ainsi toute la semaine prochaine. Bienvenue au printemps. Vous venez de déjeuner. Vous avez des choses en tête. Vous avez parlé. Vous avez fraternisé, vous avez probablement beaucoup discuté. Vous avez peut-être même terminé le déjeuner avec quelques questions, mais je veux commencer aujourd'hui en étant capable de répondre à la question qui, j'imagine, brûle au moins l'esprit de tout le monde en ce moment. Quelle est cette question? Comment fonctionnent les boucliers déflecteurs dans Star Trek? Ce n'est pas la question qui vous brûle les lèvres. Eh bien, vous allez quand même l'apprendre parce qu'elle brûlait dans le mien. Oh, j'y vais. Les boucliers sont une technologie qui offre aux planètes des vaisseaux spatiaux une protection limitée contre les dommages causés par les attaques d'ennemis ou les catastrophes naturelles. Levez la main si vous savez déjà comment cela fonctionne. Si c'est le cas, tu mensuels, ils ne sont pas réels. Il fonctionne en créant une couche de distorsion énergétique avec une forte concentration de graviton, qui est une particule théorique. Une grande partie de Star Trek est donc basée sur la théorie autour de l'objet à protéger. Ils peuvent dévier ou disperser la plupart des matières ou de l'énergie qui entre en contact avec eux, mais ils peuvent aussi être affaiblis ou pénétrés par des attaques continues ou puissantes. Nos boucliers ne sont plus qu'à 40%, c'était censé être. Peu importe. On les appelle parfois déflecteurs, boucliers déflecteurs ou écrans. Caractéristiques. Ils peuvent être modulés à différentes fréquences pour s'adapter à différents types d'armes ou de dangers, ou ils peuvent être améliorés en utilisant une interface de propulsion de spores pour créer un champ mycélien autour du vaisseau qui peut régénérer les boucliers et guérir le hall, mais seulement si vous êtes dans Star Trek Voyager. C'est une technologie d'avenir. Vous vous demandez où il va? Il pourrait être optimisé pour la survie en utilisant des déflecteurs, en améliorant la capacité des salles, etc. D'accord. C'est un bouclier déflecteur. Il protège des armes à énergie et de l'espace. Comme si ce n'était pas réel, qu'en est-il de la protection physique? Vous et moi, si nous le voulions vraiment, quelle serait la meilleure protection corporelle, le meilleur bouclier, la meilleure armure que vous pourriez obtenir? Voici deux autres exemples. Le gilet pare-balles souple le plus solide actuellement disponible est un gilet de niveau IIIA de Safe Life Defense, qui peut arrêter plusieurs balles de différents calibres d'armes de poing ainsi que des balles de fusil de chasse ou de pistolet mitrailleur. Parce que l'Amérique. Ce gilet est léger, confortable, dissimulable, polyvalent et il n'est pas à la mode. C'était le seul. D'accord. C'est une armure souple. Le gilet pare-balles le plus solide qui existe est la plaque en céramique de niveau IV de l'armure AR500, qui peut arrêter une seule balle perforant M2 AP qui vole à une vitesse de 2880 pieds par seconde. Cette plaque est relativement légère pour son niveau de protection, puisqu'elle ne pèse que 8,3 livres, et il arrive qu'on en mette plusieurs dans la combinaison. Et parce que l'Amérique, vous pouvez simplement aller en ligne et acheter ces plaques parce que quelqu'un a besoin de ce type de protection. Donc, ok, photon, gilet pare-balles. Mon frère, on ne s'inquiète pas des phasers ou des photons ou, mes notes disaient des photos. Donc je suppose que si vous aviez une mauvaise journée de coiffure, vous auriez des problèmes de photos. Mais les phasers, les photons, les tirs de mitrailleuse, tout cela ne nous inquiète pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qui nous vient à l'esprit. Même lorsqu'il y a des fusillades de masse, Ce n'est pas quelque chose qui nous préoccupe en soi, parce que nous savons que nous sommes protégés par Dieu. Mais vous et moi luttons contre quelque chose qui est bien plus petit que tout cela. Chaque fois que nous respirons, on nous rappelle que l'air est plein de ces spores. Cet agent de levage qui flotte dans l'air autour de nous. Nous venons de passer 7 jours à essayer d'éliminer ce levain, à essayer de nous protéger, de veiller sur nous, de nous protéger et d'éviter que le levain ne pénètre dans notre système. Le levain physique. Nous avons appris ce que cela signifie, les symboles qui s'y rapportent, et ce que cela signifie en fin de compte que Satan essaie de tirer ses balles, si vous voulez, de péché pour pénétrer notre armure. Nous devons nous en protéger. Je vous demande donc, alors que les jours s'achèvent, les jours du pain au levain, alors que nous approchons de la fin, comment vous et moi nous développons pour fortifier notre armure et empêcher le péché d'entrer dans nos vies aujourd'hui et tous les jours à l'avenir? D'accord. Vous commencez peut-être à voir où se situe l'introduction, mais pour cela, nous devons nous protéger. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons être capables de revêtir une armure pour arrêter les balles pénétrantes qui peuvent nous atteindre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il ne s'agira pas d'un sermon sur l'armure de Dieu, bien que tout tourne autour de l'armure de Dieu, mais nous allons la passer en revue. Passez donc à l'épître aux Éphésiens 6. Il s'agit davantage de ce que vous et moi pouvons faire. Éphésiens, chapitre 6. Commencez la lecture au verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Pour un peu de révision. Le verset 10 dit, Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres et de ce monde, contre la méchanceté spirituelle, ou les esprits méchants, dans les lieux élevés. C'est pourquoi, prenez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir résister aux mauvais jours, et de pouvoir subsister après avoir tout surmonté. Vous pouvez recevoir ces balles, si vous voulez, ces balles perforantes et rester debout. Elles ne vous mettront pas à terre. Tenez-vous donc debout, ayant vos. Encore une fois, regardons ces bribes pour qu'elles soient fraîches dans notre esprit avant de parcourir le reste du message, ayant vos reins saints de vérité. Nous pouvons penser que nous portons un pantalon de vérité. C'est une drôle de chose à penser, mais vous portez des pantalons de vérité, ou des jupes, je suppose, mesdames, et ayant une cuirasse de justice. Notre poitrine, le haut de notre corps est protégé par cela. Et nos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Et surtout, prenez un bouclier de foi qui vous permet d'éteindre tous les traits enflammés du méchant, le diable, parce qu'il essaie de tirer ses traits. Nous disons souvent qu'il s'agit de doute ou de découragement, mais il y a plusieurs dés que vous pouvez appliquer à ces fléchettes. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, en priant et suppliant sans cesse, et en esprit, en y veillant avec toute la persévérance et la supplication possible pour tous les saints. Voilà donc l'armure de Dieu. C'est l'image de l'armure. De vos pieds avec l'évangile jusqu'à la cuirasse, le casque du salut, tous ces éléments mis ensemble forment une armure autour de nous. Nous protège. Le bouclier, la parole de Dieu, nous aide à comprendre les ruses de Satan. Passons à la première Thessalie, chapitre 5. Ajoutez un peu plus ici. Nous devons nous équiper de toutes ces armures chaque jour. Mais nous verrons. C'est l'armure de Dieu. Vous savez donc que le christianisme, comme moi, c'est ce que vous et moi faisons. Nous devons obéir à Dieu. Nous utilisons les outils que Dieu nous donne. Mais en fin de compte, et surtout pendant les jours des pains sans levain où nous nous efforçons d'éviter le levain et de veiller à ce qu'il n'entre pas dans nos vies, et où nous prenons les pains sans levain, il y a des parties et des aspects que nous devons faire, sur lesquels nous devons travailler. Vous en êtes probablement là. Premier chapitre des Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 8. Le verset 8 dit simplement, « Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, et revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, ce qui correspond naturellement à la justice. » Et pour casque, l'espérance du salut. Parce qu'il est évident que si vous et moi mettons le casque du salut maintenant, nous ne l'avons pas. Nous devons continuer à avancer, à vivre notre vie et à la mettre en pratique. C'est donc l'espérance du salut, ce que nous allons recevoir, qui est clarifié ici dans les premiers Thessaloniciens. Revenons à l'Ancien Testament. Ésaïe 59. Ésaïe chapitre 59. Nous commencerons au verset 15. Ésaïe 59, verset 15. Oui, la vérité échoue. Et celui qui s'éloignait du mal devient une proie. L'Éternel l'a vu, et il lui a déplu qu'il n'y ait pas de jugement, donc Dieu qui regarde en bas. Il vit qu'il n'y avait personne et s'étonna qu'il n'y ait pas d'intercesseur. Personne n'intervient, personne n'aide. C'est pourquoi son bras, Dieu, lui apporta le salut, et sa justice, elle le soutint. Sa justice. Celle de Dieu. Car il a revêtu la justice comme une cuirasse. Avez-vous déjà pensé que Dieu porte une cuirasse? Que vous et moi pouvons revêtir quelque chose que Dieu possède? Je poursuis ici. Et un casque de salut sur sa tête. Et il a revêtu les habits de la vengeance. Une autre raison pour laquelle nous savons que c'est Dieu ici, parce que la vengeance est la sienne. C'est une partie du vêtement que nous ne portons pas. Et il était revêtu du zèle comme d'un manteau. Imaginez cela dans votre esprit. Dieu dit, « Je te donne une armure semblable à celle que je porte. » Pas tout, bien sûr. La vengeance lui appartient, et notre casque de salut est vraiment l'espoir du salut. Dieu nous laisse, vous et moi, porter une partie de son armure. Pensez-y, c'est très puissant. Encore une fois, que faisons-nous? Nous ne sommes pas protestants. Nous portons une armure qui nous permet de pécher et, chaque dimanche, nous sommes prêts à recommencer. Non, nous devons faire quelque chose. Il ne s'agit donc pas aujourd'hui d'un message sur l'armure de Dieu, que vous pouvez donner à n'importe quel moment de l'année, mais plutôt sur ce que vous et moi devons faire chaque jour pour éliminer le péché de nos vies afin de renforcer l'armure que Dieu nous a donnée. Renforcer l'armure que nous avons. Maintenir ce que nous avons reçu pendant le reste de l'année. Les jours des pains sans levain, l'image de la construction ne sert qu'à nous fortifier pour que nous ayons l'élan nécessaire pour continuer à aller de l'avant. La maintenance n'est jamais une partie de plaisir, n'est-ce pas? Si vous êtes dans un domaine où vous devez faire de la maintenance par rapport à un domaine où vous avez la possibilité de faire de nouvelles choses, qu'il s'agisse de construire un nouveau site web ou de créer une nouvelle technologie, c'est bien plus amusant. Planter un nouveau jardin, c'est amusant. L'entretenir, c'est moins amusant. Passer l'aspirateur en permanence, pas très amusant. Poser les planchers pour la première fois, de beaux planchers neufs, oh là là, regardez-les. Maintenant, je dois passer la serpillière. Ce n'est tout simplement pas amusant à entretenir. Ce n'est pas la même chose, mais en tant que chrétiens, nous devons le faire. Nous devons continuer à entretenir. Allez à Jacques. Livre de Jacques, chapitre 4. Nous sommes toujours en train de nous installer ici. Jacques chapitre 4 et nous commencerons au verset 8. Le huitième verset dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, gens à l'esprit double. Soyez dans l'affliction, dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. En fin de compte, nous savons que l'armure de Dieu nous protège parce qu'elle repose sur la puissance de Dieu. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans le christianisme. Vous avez déjà entendu l'expression selon laquelle il faut travailler comme si tout dépendait de soi et prier comme si tout dépendait de Dieu. On pourrait même dire que tout dépend de Dieu. Il est donc essentiel que cette armure vienne de Dieu, pour nous donner la force d'empêcher le péché d'entrer. Mais comme pour de nombreux aspects du christianisme, nous devons faire notre part. Dieu peut faire des choses incroyables, et d'autres substances, comme le graphène, qui est l'une des choses les plus géniales qui soient. Vous pouvez avoir quelque chose qui a deux couches d'épaisseur de graphène, ce qui correspond à l'épaisseur d'une cellule. Vous prenez ce matériau, et si vous le transformez en une sorte de tissu, si vous y pensez de cette façon, il peut arrêter une balle. Avec deux cellules d'épaisseur, il peut arrêter une balle. Il devient dur, presque comme un diamant. Très fragile, il se brise, mais il arrêterait une balle. C'est là que l'analogie commence à s'effondrer un peu. Si c'est l'armure de Dieu, avons-nous vraiment besoin d'entretenir l'armure de Dieu ou devons-nous travailler sur l'armure de Dieu? Non, non, bien sûr. Toutes les analogies commencent à s'effondrer, mais Dieu veut que nous nous concentrions sur cela pendant les jours des pains sans levain parce que c'est se concentrer sur ce que nous devons faire 365 jours par an. Pas seulement pendant 7 jours, pas seulement pendant les petites périodes où nous nous retirons des choses que nous faisons dans le monde, des collations que nous avons, de divers autres aspects. Non, pendant toute l'année. Alors, donnez-nous quelques points. J'aime les points. La première est que nous pouvons renforcer notre armure en réfléchissant au jour des pains sans levain. Et pas seulement pendant 7 jours. Il y a une raison pour laquelle les jours des pains sans levain sont répétés à l'automne, le concept de la fête de la sortie d'Égypte, ces jours sont représentés à l'automne et au printemps pour une raison, parce que c'est ce que nous faisons tout au long de l'année, chaque année, pendant toute notre vie, jusqu'à ce que Dieu y mette un terme. Il nous le rappelle. Voilà à quel point Dieu pense que nous sommes oublieux. Il pense qu'il pourrait oublier si je ne le fais pas 2 fois par an. Nous allons arriver à la chute, si c'était juste une autre signification, est-ce que nous penserions, d'accord, c'est pourquoi? Non, le festin est juste une fête. Non, il s'agit de la même image, celle de la sortie d'Égypte. Vous pourriez consulter diverses écritures sur les jours de pain sans levain, mais vous les avez entendus tout au long de ces jours, et vous et moi savons que c'est une image amusante dans certains cas, parce qu'elle parle du pain de l'affliction. Oh, cela a le même goût que le lait à la fin de Captain Crunch. Le pain de l'affliction. Je vais raconter une histoire sur moi, puisqu'il était prêt à le faire, sur lui. Dimanche, il faisait beau, et nous avons un tas de lits, 9 pour être exact, en comptant notre maison et les lits en bas. Et je me suis dit, vous savez quoi? Je vais travailler très dur. Aujourd'hui, je vais faire des bordures sur tous ces parterres. 6 heures plus tard, à peine capable de marcher, j'ai terminé les parterres, je suis rentré et je me suis senti bien dans ma peau. Et puis ma femme, nous étions. Je voulais quelque chose de savoureux et de sucré parce que j'avais passé 6 heures à faire des bordures. J'essayais de parler en code à ma femme parce qu'Ethan allait se coucher. Et elle me répondait en code, et apparemment, nous avons 2 codes différents. J'ai donc pensé que nous avions quelque chose, Et après qu'il se soit couché, elle m'a dit, et pourquoi pas une glace? J'ai dit, oui. Parfait. Je m'en moque. Je voulais juste que ce soit froid. Si cela avait été un glaçon, j'aurais probablement été content, mais la crème glacée était bien meilleure. Je n'aurais pas été heureuse. Une bien meilleure option. Maître, voilà donc dimanche, en train de faire du trekking, pour aller chez Giant Eagle. Je vais chez Giant Eagle parce que je veux acheter la glace de génie. Une glace excellente, merveilleuse. J'ai regardé, j'ai traversé la colline, j'ai commencé à aller vers la porte. Oh, c'est fermé, c'est Pâques. C'est vrai. Je regarde mon téléphone, Buell est ouvert, c'est à l'autre bout de la ville. Je peux y arriver. Et j'ai traversé la ville, parce que c'est important de traverser la ville une fois qu'on s'est habitué aux distances. J'ai donc traversé la ville et Buell s'était fermé. D'accord. Je suis sorti, ma femme m'a envoyé un message, reviens à la maison, non. Alors je me suis aventuré jusqu'à Walmart. On va à Walmart, on va faire en sorte que cela arrive. On va trouver de la glace. Et j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé de la glace. Mais ce qui était étonnant et pourquoi cela s'applique au jour des pains sans levain, parce qu'autrement je ne fais que manger des sucreries, c'est à quel point le péché est sournois, le levain sournois, comme nous l'avons entendu dans le sermon, cela peut être sournois. Je regardais les différents produits en me disant, oh, c'est génial. Je regarde le dos, je lis les ingrédients, je prends une photo et je lui demande de revérifier parce que je ne portais pas de lunettes. Donc vous faites cela, et puis non, il y a du bicarbonate de soude. Je plaisante, il n'y a rien dedans. C'est de la glace à la vanille. Aucun d'entre eux n'était à la vanille, croyez-moi. Mais encore et encore, c'était ceci, cela, et l'autre chose qui contenait du bicarbonate de soude. Finalement, nous avons trouvé deux glaces. La vie était belle, mais nous devions creuser, creuser et creuser encore, car ce péché sournois ne cesse de s'emparer de notre vie. Et tout comme c'est le cas, les jours des pains sans levain ne devraient jamais être perdus alors que ce jour s'achève. Et inversement, aussi diligents que nous soyons en ce qui concerne les choses physiques, nous pouvons parfois nous mettre dans l'état d'esprit suivant, nous devons juste cocher la case pendant les jours des pains sans levain. Je ne mettrai donc jamais de levain dans ma bouche. Je vais faire très attention. Et quand il s'agit de mettre du levain dans notre bouche, qui symbolise Christ dans tant de choses, parfois nous nous contentons de cocher la case. Comme si c'était bon, bon, on passe à autre chose maintenant. J'ai mis mon levain. Et ce sont deux fossés dans lesquels nous pouvons tomber si nous ne faisons pas attention. Mais ce sont des choses que nous devrions faire et auxquelles nous devrions penser tout au long de l'année. D'accord, passons au 1er Corinthiens, avec quelques références au Nouveau Testament. Les nouveaux jours sur le pain sans levain. 1er Corinthiens 5. Vous avez entendu beaucoup de références à l'Ancien Testament dans les autres messages. 1er Corinthiens 5, verset 6. Le chapitre 5, verset 6, de la première épître aux Corinthiens dit, votre orgueil n'est pas bon. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purgez donc le vieux levain, afin que vous soyez une masse nouvelle, comme si vous étiez sans levain. Nous devons rester et travailler pour rester dans cette voie. Nous pouvons en manger après le coucher du soleil aujourd'hui. Mais nous devons rester et travailler pour rester sans levain. Nous devrions avoir cette armure qui nous protège du péché à venir. Il arrive. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Car Christ, notre Pâque, s'est sacrifié pour nous. Pensez-y. La Pâque, c'était il y a 8 jours à peine. L'avons-nous oublié? Au bout de 8 jours, on se dit, ah oui, c'est vrai, la Pâque vient d'avoir lieu. Il est si facile pour vous et moi d'oublier. Verset 8, c'est pourquoi nous célébrerons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Et tous les jours que cela représente, la sortie d'Égypte, les miracles, le passage de la mer rouge. Les jours des pains sans levain sont des images massives de nos vies que nous devons accomplir spirituellement, alors que nous regardons l'ancien Israël et qu'il devait le faire physiquement. Et, bien sûr, nous devons faire beaucoup mieux sur le plan spirituel qu'il ne le faisait sur le plan physique. La nôtre est permanente. Nous devons nous engager au-delà de cette époque. Il y a eu un moment où ils sont sortis d'Égypte. L'acte physique avait changé. Ils ont traversé la mer Rouge, l'Égypte était derrière eux. L'Égypte n'est jamais derrière nous. Nous devons la mettre à terre et encore, elle essaie de revenir, ce vieil homme. Mais vous et moi traversons constamment la mer Rouge. La mer Rouge essaie constamment de nous ramener en arrière. C'est le diable. Il essaie de nous ramener en arrière. Retourner en Égypte, retourner dans le péché. Il essaie de traverser votre armure et la mienne alors que nous la construisons. Hébreux 11. Souvenez-vous que nous renforçons notre armure en réfléchissant au jour des pains sans levain, pas seulement aujourd'hui mais tout au long de l'année. Hébreux 11 et le verset 24. Le verset 24 dit, par la foi. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, parvenu à l'âge mûr, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de goûter pour un temps les plaisirs du péché. Il estime que l'opprobre du Christ est une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, qui auraient été considérables. Son rôle, ce à quoi il avait accès, le genre de conglomérat ou l'unification des richesses à l'époque autour d'un pharaon, les trésors de l'Égypte, car il avait le respect de la récompense. C'est par la foi qu'il abandonna l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il supportait de voir l'invisible. Il voit Dieu, vous et moi aussi. Mais nous avons aussi un ennemi invisible qui essaie de percer notre armure. Il a abandonné l'Égypte. Il n'a jamais été vraiment égyptien, mais on peut imaginer que la plupart des gens le considéraient comme tel à l'époque, surtout lorsqu'il était au pouvoir. Mais il a dû y renoncer, s'en éloigner et résister. Ces histoires ne figurent pas dans la Bible, mais Moïse était un homme, un être humain comme nous. À certains moments, je suis sûr qu'il a pensé aux privilèges, à l'accès, au confort, à la crème glacée, si vous voulez, en Égypte, tout comme vous et moi devons le faire. Ils nous viennent à l'esprit. Nous devons nous battre. Nous y pensons. C'est Satan qui essaie de traverser le bouclier. Il veut que nous doutions, que nous remettions en question telle ou telle chose. Peu importe de quoi il s'agit. Le doute est un outil puissant qu'il utilise pour franchir ce bouclier. Nous devons étouffer ces doutes. Mais si notre bouclier n'est pas en place, s'il n'est pas prêt, s'il n'est pas solide, s'il n'est pas entretenu, si nous ne savons pas comment l'utiliser, alors ces doutes se faufileront. Ces doutes s'insinueront. Il devient alors plus difficile d'abandonner l'Égypte, si vous voulez. Verset 28, c'est par la foi qu'il célébrait la Pâque. L'aspersion du sang, de peur que les premiers-nés ne soient détruits et ne les touchent. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge, comme par terre, et les Égyptiens, qui tentaient de le faire, ont été noyés. Les Égyptiens sont morts lorsqu'ils ont fait cela, mais pas Israël. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous et moi sommes attirés par la mer rouge. La mer rouge ne nous lâche jamais. L'Égypte ne nous lâche jamais. Jusqu'à ce que nous soyons un esprit, ces attraits ne disparaîtront jamais. Jusqu'à ce que nous soyons un esprit, la signification des jours des pains sans levain doit nous accompagner tout au long de l'année. Parce que nous sommes constamment en train d'essayer de le faire sortir, de l'enlever, d'en faire sortir encore et encore. Il y a ces petits moments où l'on n'est pas sûr de ce qu'il y a dans ceci, ce qu'il y a dans cela. Je suis allé chez le dentiste cette semaine et c'était une visite de 3 heures, un petit nettoyage et toutes ces choses amusantes. C'était la première fois que j'allais chez ce dentiste. Et je suis allé, vous savez quoi? Je suis passé devant, j'ai pris un café le matin, j'ai vu Five Guy. Je ne mange vraiment pas terriblement, juste pour que vous vous y référiez. Comme celui qui a fait un sermon sur le régime, mais la modération en toutes choses. J'ai donc vu Five Guy, et si quelqu'un ici aime les hamburgers frites Five Guy, oui, d'accord, beaucoup de mains se lèvent. Si vous n'avez pas levé la main, je suis désolé pour vous, vous n'êtes pas converti. Ce sont de très bons hamburgers et de très bonnes frites. Je suis donc entré chez Five Guy et, pendant une fraction de seconde, je me suis dit que ce serait super pour le déjeuner. Un hamburger. Heureusement, ce n'était qu'une fraction de seconde et j'ai pris des frites à la place. Mais il y a eu ce moment où cela m'a semblé être la chose logique à faire parce que, bien sûr, c'est ce que je fais. Quand je vais chez Five Guy, je prends un hamburger. Lorsque nous marchons dans nos vies, nous tombons dans le péché parce qu'il est là. Si nous n'y pensons pas activement, nous aurons du mal à y résister. Nous aurons du mal à la repousser. Nous aurons du mal à positionner notre armure au bon endroit. Nous parlerons beaucoup plus de ce que nous pouvons faire pour renforcer cette armure, mais nous lutterons et les choses passeront. Même par accident, les choses passeront. Aurais-je pu commander ce hamburger sans réfléchir et l'engloutir? Il est probable qu'au moment où je l'aurais avalé, j'aurais pensé oh oh. Et j'aurais eu le moment Twix ou le moment Reese's et je me serais dit, oh non. Et puis j'ai entendu une autre histoire à propos de quelqu'un qui, c'est ce qui arrive quand on raconte des histoires au dîner. Ils étaient au travail et quelqu'un allait leur donner un bagel. Je pense qu'ils ont pris le bagel et qu'ils ont dit non. Eh, vous devez faire ce que vous avez à faire. Parce que nous sommes dans l'action, nous vivons notre vie et nous oublions, parce que c'est facile d'oublier. C'est cela le problème. C'est si simple. Si vous travaillez au siège, nous avons une chance inouïe. Il n'y a pas de beignet à porter au hasard. Parce que, littéralement, c'est la semaine où tout le monde décide d'être super généreux à propos de tout ce qui est levé. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, c'est comme s'ils apportaient des bagels et des beignets, des gâteaux et des bonbons. On n'apporte jamais rien ici, mais cette semaine-là, oui. Le diable est là. Ce qui se passe est évident, mais l'Égypte nous tire en arrière. Alors, tout au long de l'année, alors que nous voulons fortifier, renforcer cette armure, n'oubliez pas les jours des pains sans levain lorsque le soleil se couchera ce soir. N'oubliez pas la signification, l'histoire et le but de ces jours lorsque le soleil disparaît à l'horizon et que nous pensons que nous pouvons manger du pain maintenant. Je peux aller chercher ce hamburger. Nous devons garder cela à l'esprit tout au long de l'année. Deuxièmement, nous pouvons renforcer notre armure en protégeant notre cœur et notre esprit. Répétons-le. Nous pouvons renforcer notre armure en protégeant notre cœur et notre esprit. Qu'entendons-nous par là? N'oubliez pas que nous ne parlons pas de l'armure en tant que telle. Nous parlons de la manière de l'améliorer, de la renforcer, de la rendre plus efficace, de mieux l'utiliser. Où doit se situer notre esprit? De quoi devrions-nous nous imprégner pour vraiment mettre en place le concept de ce que cette armure devrait faire et comment elle devrait être utilisée en ayant les bonnes pensées pour l'étayer? Allez à Galates 5. Un simple verset, un verset à mémoriser ici. Mais c'est un verset important. Galates chapitre 5 verset 22, le fruit de l'esprit ici. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la bonté, la foi, la gentillesse, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Si nous faisons cela, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de péché, pourrait-on dire. Si nous sommes parfaitement remplis d'amour de Dieu, d'agapé, pleins de joie, de paix, de longanimité. Si nous sommes pleins du fruit de l'esprit, nous ne pouvons pas l'être, nous sommes encore humains. L'esprit humain interfère toujours avec l'esprit de Dieu. Et nous avons toujours la chair qui nous ramène à la mer rouge. Mais si nous l'avions parfaitement ou complètement, la loi ne s'appliquerait même pas. Nous n'aurions pas besoin de l'armure. Nous serions imperméables à Satan. Nous n'aurions pas à nous en préoccuper. Donc, plus nous remplissons notre esprit de ces choses, plus nous demandons de l'Esprit de Dieu, plus nous demandons le fruit de son esprit, plus notre esprit devient fort, plus notre armure devient forte. Parce que contrairement aux balles qui sont censées percer la plaque d'épaule ou la plaque de poitrine, ce n'est pas ainsi que Satan s'y prend. Il est beaucoup plus sournois. Il est beaucoup plus sinistre. Il veut s'introduire dans notre esprit, nous faire penser à de mauvaises choses, laisser nos pensées emprunter des chemins qui mèneront au péché et à la transgression de la loi. Nous devons donc nous protéger. Retournez au chapitre 4 des Proverbes. Proverbes chapitre 4. Nous devons garder nos cœurs, nos esprits et nos cœurs. Lorsque nous le faisons, nous nous rapprochons de Dieu. Et rappelez-vous, il nous a donné l'armure. C'est son armure. Nous en avons des éléments, la cuirasse, le casque, donc plus nous sommes comme lui, plus nous chassons le péché, plus nous pensons comme Christ, plus nous nous revêtons du Christ, plus cette armure peut être efficace. Proverbes chapitre 4, vous y êtes probablement. Verset 20. Le verset 20 dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes paroles. Qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au milieu de ton cœur. Car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent, et la santé pour toute leur chair. Verset 23. Garde ton cœur avec soin. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. On pourrait dire le bien et le mal. Si nous gardons notre cœur avec toute la diligence voulue, nos cœurs, nos esprits, c'est pourquoi il est question de votre cœur. C'est votre esprit. La semence de nos pensées. Nous devons la garder, la protéger. Avoir cette cuirasse, serrée, fortifiée, renforcée. Nous devons remplacer les choses dans notre esprit qui ne seraient pas tout à fait diligentes, qui aurait les problèmes du mauvais côté de l'échelle, les problèmes de la vie. Remplacer ces pensées par des choses qui sont meilleures, comme le fruit de l'esprit, divers autres aspects de celui-ci, pour devenir plus semblable à Dieu. Vous comprenez? C'est intéressant. Il y a eu un moment, au cours des 8 derniers jours, où vous et moi étions comme Dieu. C'était un moment, parce que nous sommes humains. Mais il y a eu un moment où vous avez pris les symboles, le pain et le vin. À moins que nous n'ayons péché pendant cette courte période entre les deux prises, nous étions parfaits. Tout était là. Nous étions complets, nous étions sans péché. Nous étions comme Christ. Nous avions une armure impénétrable. Satan aurait pu nous lancer l'attaque la plus dure possible, et nous aurions pu y résister parce que nous étions proches de Dieu, parce que le péché nous sépare de Dieu. Mais à ce moment-là, nous étions comme Christ, sans péché. Puis la semaine s'est écoulée. Même si nous n'avons pas mangé de pain sans levain, je suis sûr que chacun d'entre nous dira qu'à un certain niveau, il a commis une sorte de péché. Nous sommes humains. C'est ce que nous faisons. Mais pendant un moment, non. Nous étions comme Christ. Cela aurait été le moment, s'il n'y avait jamais eu un moment où vous auriez eu une certaine bravade avec Satan, ce serait juste après que nous ayons pris le vin et que nous ayons dit, d'accord, Satan, amène ton pire parce que je suis invincible maintenant. Pendant un bref instant, puis l'humanité reprend le dessus. Mais nous devons concentrer notre esprit, car pendant ce temps, alors que nous buvons le vin et que nous entendons le pain croquer dans notre bouche, nous sommes concentrés sur les choses de Dieu. Contrairement à toute autre période de l'année, notre esprit est là. Allez à Philippiens 4. Et dès que nous sortons de ce service, les choses commencent à changer, n'est-ce pas? Vous montez dans votre voiture et commencez à rentrer chez vous, et quelqu'un vous coupe la route dans la circulation où le feu change de telle sorte que, ah, j'allais y arriver, mais je n'y suis pas arrivé. Une déception, un pneu crevé ou quelque chose qui ne va pas. Vous reprenez votre travail quelques jours plus tard. Il est tard. Tous les aspects de notre vie commencent à se remplir à nouveau. En regardant le monde qui nous entoure, il est difficile de ne pas avoir des pensées très fortes rien qu'en regardant les nouvelles. Mais comme il est dit dans Philippiens 4, verset 5, il est écrit, que votre modération soit connue de tous, car le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Je l'ai répété à maintes reprises, à aucun autre moment, vous ne pouvez dire que le Seigneur est à portée de main. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître votre demande à Dieu. Et au verset 7, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées par Christ Jésus. Nous y revoilà, gardez nos cœurs et nos esprits au bon endroit. Rappelez-vous, il vient d'être réinitialisé. Il y a 8 jours, il a été réinitialisé, puis nous avons passé une semaine entière à nous concentrer sur l'élimination du péché de nos vies. Repoussez ce levain. On pourrait dire qu'il s'agit d'enlever les petits morceaux qui se glissent sous les plaques d'armure ou qui sont collés à nos chaussures. Nous essayons de l'arrêter, mais les choses commencent à revenir en arrière, n'est-ce pas? Verset 8, enfin. Frères, toutes les choses qui sont vraies, c'est ce que nous mettons dans notre esprit. Ce sont les choses dont nous devons nous imprégner. Nous avons entendu dans la sermonette, de quoi remplissons-nous notre esprit? Quels sont les aspects que nous mettons dans notre cerveau, les médias, les nouvelles, ceci, cela, quoi que ce soit? Cela correspond-il à ce que nous voulons? Verset 5. Que votre modération soit connue en toutes choses. Les choses vraies. Verset 8. Et tout ce qui est honnête, ce qui est juste, ce qui est pur. Les choses justes, pures, ce qui est difficile dans cette société. Tout ce qui est beau. Le mot beau est sous-utilisé dans la société. Mais quand on a un jour comme celui-ci, on peut apprécier ce qu'est la beauté. On regarde dehors. Tout ce qui est digne d'intérêt, s'il y a quelques vertus, quelques louanges, pensez à ces choses. Utilisez cela du côté humain, en complétant l'Esprit de Dieu en nous, en donnant le fruit de l'Esprit. Complétez le fruit avec ses pensées pour pouvoir vous rapprocher de Dieu. Cela vous aidera à garder votre esprit, à vous concentrer sur les bonnes choses. Nous devons être vigilants face à ce qui nous arrive, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes choses. Mais nous ne sommes pas non plus ceux qui vont dans un monastère quelque part et qui chantent contre un mur, font de la bière et toutes les autres choses qu'ils font. Mais ils se séparent. Ils sont au milieu de nulle part. Ce n'est pas ainsi que vivent les chrétiens. Nous sommes une lumière, nous sommes un exemple. Nous marchons dans la société. Nous devons vivre dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous devons y vivre. Et en faisant cela, vous et moi, et nous tous, nous allons nous heurter à un barrage d'attaques de la part de la société, et à toutes les choses amusantes que la société a à faire. Ce n'est pas amusant en fin de compte parce que cela conduit au péché, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses à faire. Il s'agit de trouver, encore une fois, au verset 5, la modération en toutes choses. Nous devons nous entourer de choses positives et édifiantes. Cela inclut les autres. Nous nous réunissons, c'est un autre aspect brillant du fait que Dieu nous réunisse pendant les jours des pains sans levain. Parce que si vous allez au sabbat chaque semaine, vous cherchez, surtout si vous n'avez pas le privilège de pouvoir être ici, et si vous êtes dans le monde, vous êtes à l'école, à votre travail, quoi que ce soit, vous vous réunissez le jour du sabbat, et c'est juste que, expire, je suis entouré de gens qui comprennent. Ils savent ce que je traverse, ce pourquoi je me bats, les épreuves, les luttes, les fléchettes, les attaques, tout ce qui m'arrive. Ils comprennent que je dois me forger une armure comme eux. Et cela nous édifie les uns les autres, nous construit les uns les autres, la conversation. Voyons Colossiens 3. Encore une fois, nous pouvons renforcer notre armure en protégeant nos cœurs et nos esprits. Un verset intéressant. Colossiens 3 et le verset 12. Quand nous pensons à l'armure et à la façon dont elle est, si vous avez déjà vu des armures, j'ai toujours. La première fois que j'ai entendu parler de l'armure de Dieu, j'ai imaginé ces grandes armures médiévales. C'est ce que nous imaginons tous lorsque nous nous représentons en armure. Le gros truc en métal sur la tête et le truc qui se relève. Comment se battait-il avec ses armures? Je pense littéralement que c'était juste utilisé pour ne pas mourir plus vite. On se déplaçait avec de gros bras en métal. C'est amusant d'y penser parce qu'on imagine un champ de bataille avec des gens qui marchent et se battent. Je suppose qu'ils se sont améliorés par rapport à ma version. Vous imaginez cette armure, et elle est maintenue dans les différentes sections, généralement en cuir sous les plaques et ainsi de suite, mais Dieu a utilisé quelque chose de très différent. Verset 12. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de longanimité. Il y a beaucoup de recoupement avec le fruit de l'esprit. Se supporter les uns les autres et se pardonner les uns aux autres. Nous ne gardons pas de rancune dans l'Église de Dieu. Une façon de voir qu'une congrégation a des problèmes, c'est qu'une personne ou deux, ou l'une et l'autre, ont de la rancune. Ils n'appliquent pas Matthieu 18, ne discutent pas, ne découvrent pas le problème et ne le résolvent pas parce que nous devons être unis en tant que peuple de Dieu. Se pardonner les uns aux autres. Si quelqu'un a un différend avec quelqu'un, comme Christ vous a pardonné, faites-le vous aussi. Même si vous avez été lésé. Faut-il aller voir quelqu'un? C'est toujours une chose étonnante. C'est généralement la personne la plus facilement offensée qui est prête à appliquer Matthieu 18. Parce que Matthieu 18, c'est applicable. Il faut vivre à la manière de Dieu. Si quelqu'un est offensé, vous pouvez aller voir votre frère ou votre sœur pour clarifier la situation, mais ici, Dieu dit en quelque sorte que si quelqu'un a une querelle contre vous, pardonnez-lui. Vous n'avez pas besoin d'aller dire, d'accord, bonjour à un tel et à un tel. Tu as une querelle contre moi et moi contre toi. Nous allons donc appliquer la première phase de Matthieu 18. Nous allons nous asseoir, toi et moi, et si nous ne parvenons pas à résoudre ce problème, j'irai chercher quelqu'un. Et si cela ne marche pas, j'irai chercher le ministre. Il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Il suffit de pardonner à l'autre et de dire non, c'est peut-être un malentendu. Prenez le meilleur. S'il s'agit d'une offense et qu'elle tient, appliquez bien sûr Matthieu 18, c'est dans la Bible. Mais au fil des ans, j'ai remarqué que les personnes les plus désireuses d'appliquer Matthieu 18 sont généralement celles qui sont les plus heureuses ou les plus à l'aise pour marcher sur les plates unions des autres. Il en va de même pour les Colossiens. Continuons ici. Verset 14. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, agape, l'amour de Dieu, qui est le lien, la connexion, l'attachement, de la perfection. Comment notre armure est-elle reliée? Cela fait froid dans le dos. Par le lien de l'amour. Dieu relie la cuirasse, Dieu relie les chaussures, le casque. Toutes ces pièces sont reliées entre elles par l'amour de Dieu, et c'est pourquoi nous devons pardonner aux gens. C'est la raison pour laquelle nous devons pardonner aux gens. Cela nous permet de nous éloigner des choses. Il nous permet d'empêcher les choses de s'infiltrer dans les fissures parce que c'est l'ultime filet de sécurité lorsqu'il s'agit de Dieu. Rappelez-vous que Dieu est amour. Nous avons parfois peur de cela parce que le monde du christianisme protestant ne parle que d'amour, d'amour, d'amour négligé, d'amour, d'amour. Et cela le transforme en quelque chose qui est comme. Je déteste ce terme, mais je l'utilise. Il se transforme en quelque chose de dégoûtant. On se dit, oh, je ne veux pas parler de l'amour de Dieu. Mais non, Dieu est amour. C'est une composante de ce qu'il est, de ce qu'est Christ, et l'utiliser comme la chose qui nous unit, oh, nous ne devrions pas en avoir peur. Ce n'est pas parce que les gens ne respectent pas le dimanche ou font quelque chose de mal que nous devrions craindre certaines composantes de l'identité de Dieu. Passons au psaume 101. Nous renforçons notre armure en protégeant nos cœurs et nos esprits. Ce sont tous les aspects de cela. Comment cette armure est assemblée, attachée? Psaume 101, premier psaume. Commencez au premier verset. C'est le psaume de David. Il se lit comme suit. Je chanterai la miséricorde et la justice pour toi, Seigneur, je chanterai. Je me conduirai avec sagesse et perfection. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans ma maison d'un cœur parfait. Un cœur parfait. Je ne mettrai aucune chose mauvaise devant mes yeux. Je hais l'œuvre de ceux qui se détournent. Elle ne s'attachera pas à moi. C'est une déclaration fascinante. Je hais l'œuvre de ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Se détourner. Elle ne s'attachera pas à moi. Quel est le contraire de cela? Si nous ne détestons pas, si nous n'avons pas d'aversion ou si nous pensons que ce n'est pas super ou toute autre version plus douce de cette affirmation, nous dirons, non, nous devons haïr les choses qui ne sont pas de Dieu. Nous devons haïr les choses qui ne sont pas de Dieu. Vous n'êtes pas la personne sur le panneau de rue avec le carton découpé et la fin est proche. Mais personnellement, nous détestons ces choses. Nous détestons le péché. Parce que sinon, même si nous croyons le verset, ces choses s'accrocheront à nous, parce que c'est le contraire de la haine. Et selon que nous le détestons moins ou que nous sommes intrigués par lui, ou peut-être curieux de ce que peut être ce péché, cette chose mondaine, plus il peut s'accrocher à nous. Il peut s'accrocher à nous. Il peut affaiblir notre armure. On peut penser qu'il s'agit de s'accrocher à des parties de cette armure et de la faire rouiller, au lieu de la haïr pour qu'elle ne rouille pas. Le verset se poursuit au verset 4. Un cœur malveillant, ou déformé, c'est ce que cela veut dire, un cœur. Un cœur rebelle, excusez-moi, un cœur rebelle, déformé, s'éloignera de moi. C'est une autre façon intéressante. Je ne connaîtrai pas une personne méchante. Un cœur déformé s'éloignera de moi. Mesdames et messieurs, nous avions tous un cœur déformé. Bien sûr que oui. Nous avions un cœur de pierre avant que Dieu ne nous appelle. Cela s'est transformé en chair. Alors, comme le levain, comme le péché, toutes ces choses, nous essayons de faire sortir ce cœur déformé de nous, de l'éloigner de nous, pour que ces choses ne s'attachent pas à nous. Nous devons avoir l'esprit pur. Nos cœurs doivent être protégés si nous voulons que notre armure soit plus solide. En fin de compte, l'armure est l'armure. Mais que faisons-nous pour l'améliorer? Que faisons-nous pour l'améliorer? Plus nous voulons qu'il soit fort, plus nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, de la pureté de Dieu et du cœur de Dieu en nous. Mais nous sommes toujours humains, n'est-ce pas? Vous et moi sommes toujours humains. Donc, troisièmement, pour nous fortifier. Numéro 3, pour nous fortifier. Nous devons connaître nos faiblesses. N'est-ce pas ce dont il est question tout au long de ces 7 jours? En commençant par la Pâque et les jours des pains sans levain. Nous apprenons à connaître nos faiblesses en nous examinant avant la Pâque, en prenant la Pâque, en étant pardonnés de nos péchés, puis en voyant et en travaillant tout au long des jours des pains sans levain pour empêcher le péché d'entrer. Nous apprenons à nous connaître. Nous sommes des êtres humains. Nous avons une humanité. Nous pécherons, nous échouerons. Nous tomberons, nous trébucherons et nous ferons toutes ces choses. Mais nous devons continuer à avancer, à aller de l'avant. Nous devons reconnaître notre humanité et savoir quand dire, Dieu, j'ai fait une erreur. Ou à l'autre, j'ai commis une erreur. Je suis désolé. Pardonne-moi, Dieu. Pardonne-moi, personne. 1 Jean, chapitre 1. Verset 7. 1 Jean 1, 7. Si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Ce sang que nous avons pris, ce symbole s'applique tout au long de l'année alors que nous demandons le pardon de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Il y a des versets bibliques qui vous coupent l'herbe sous le pied, n'est-ce pas? Vous pensez que si vous vous sentez un jour comme, oh, vous savez quoi? J'ai compris ce qu'est le christianisme. Et puis vous lisez, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Comme oh, d'accord. Bon sang, ce n'est pas grave. Je m'amuse un peu. Verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, encore une fois, juste pour enfoncer le clou, nous le faisons menteur. Pourquoi Christ mourrait-il si nous n'avions pas besoin d'un sauveur? Et sa parole n'est pas en nous. Nous ne sommes pas convertis si nous pensons que nous sommes au-delà ou au-dessus du péché. C'est là qu'il faut faire attention, nous tombons si nous pensons être debout. Mais n'oubliez pas que l'armure sert à se tenir debout, à résister à toutes les attaques de Satan. Parce que vous avez travaillé et que j'ai travaillé pendant 7 jours pour construire et renforcer, et ensuite nous allons au combat. Peu importe le nombre de jours qui nous reste, une fois que le soleil se couche ce soir, les vacances sont terminées. Nous retournons à notre travail, à l'école, à tous les autres aspects, et cette armure ferait mieux d'être prête parce que nous sommes sur le point de retourner au combat. Romains 7. Encore une fois, souvenez-vous que pour nous fortifier, nous devons connaître nos faiblesses. Romains, chapitre 7. Nous commencerons au verset 14. Le verset 14 dit, nous savons que la loi est spirituelle. Moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que je fais, je ne le permets pas. Ce que je voudrais, je ne le fais pas. Mais ce que je hais, je le fais. D'accord, laissez-moi moderniser cela. J'essaie de ne pas pécher, mais je le fais quand même. C'est ce que dit Paul. C'est Paul, l'apôtre Paul, il y a 2000 ans, qui enfonce le clou de la dernière écriture, n'est-ce pas? Si nous disons que nous sommes sans péché, nous mentons. Mais voici ce grand homme de Dieu qui essaie de faire ce qu'il faut, mais qui constate qu'il a toujours des problèmes. Verset 16. Si donc je fais ce que je ne voudrais pas, je reconnais à la loi qu'elle est bonne. La loi, en quelque sorte, garde une trace, nous savons où sont les barrières. Si vous avez un enfant, vous comprenez qu'il s'en sortira beaucoup mieux s'il comprend les paramètres de ce qu'il est autorisé à faire. Ils peuvent les dépasser, comme nous le faisons en tant qu'enfants de Dieu, dépasser ces paramètres, mais lorsque nous savons où ils se trouvent, nous n'avons plus d'excuses. Ce n'est donc plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Il a traversé le bouclier, il a traversé l'armure, parce que sous l'armure se trouve notre chair. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite aucune chose bonne. Car la volonté est présente en moi, mais je ne trouve pas comment accomplir ce qui est bon. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais avec Christ, tout est possible. Mais continuons maintenant ici, au verset 20. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc une loi, quand je veux faire le bien, le mal est présent en moi. Même si nous faisons le bien, nous sommes dans la chair. Oui, le mal est toujours présent. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi, un autre adversaire, si vous voulez, un combattant, dans mes membres, qui fait la guerre à la loi de mon intelligence, qui nous aide à comprendre qui nous sommes, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Quelle que soit la solidité de notre armure, nous devons nous rappeler qu'en dessous, ce que Dieu nous a donné est toujours de la chair et du sang, est toujours charnel, a toujours cette loi du péché dans nos membres. Nous ne pouvons pas nous en défaire. Poursuivons ici. Malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par l'Esprit, je sers la loi de Dieu, mais par la chair, la loi du péché. C'est cette bataille. Lorsque notre esprit est pur, nous pensons aux lois de Dieu, nous pensons aux voies de Dieu, aux buts, aux choses de Dieu. Mais lorsque la chair commence à prendre le contrôle du volant, la loi du péché reprend le dessus. Paul va en ajouter un peu plus ici, dans la deuxième partie des Corinthiens. Passez à ce chapitre. Chapitre 12. Deuxième Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Le verset 9 dit, il me dit, ma grâce te suffit, en parlant de ses faiblesses et de certains problèmes de santé que Paul avait, car c'est dans la faiblesse que ma force s'accomplit. C'est pourquoi je me glorifie volontiers de mes faiblesses. Il ne voulait pas les perdre. Il a demandé à plusieurs reprises, « Et Dieu, veux-tu me guérir? Non, tu n'y arriveras pas. C'est la vie. » Je pense que nous avons tous ces maux et ces douleurs, ou ces choses, où nous nous demandons, pourquoi Dieu ne guérit-il pas cela? Nous sommes en bonne compagnie si c'est notre cas. Je me glorifie de mes infirmités, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir, je me glorifie et je prends plaisir à mes infirmités, aux outrages, aux nécessités, aux persécutions, aux détresses, pour l'amour de Christ. Car lorsque je suis faible, ce que nous sommes tous parce que nous sommes chers, c'est alors que je suis fort. Comment cela peut-il avoir un sens? Comment se fait-il que lorsque nous sommes faibles, nous soyons forts? Pensez au jeûne. Pensez que lorsque vous jeûnez et que votre corps commence à s'affaiblir, vous réalisez, oh, je suis, selon la fréquence de votre jeûne ou si vous avez déjà jeûné plus longtemps, vous réalisez à quel point vous et moi sommes rapidement dépendants de la nourriture et de l'eau, à quel point nous devenons faibles. Mais lorsque vous devenez si faible, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire cela sans Dieu. Je suis trop faible. Je vais encore vous raconter mon histoire. Je travaillais sur, c'était hier, je travaillais dans mon bureau sur le sermon. C'était encore une belle journée, hier, le soleil se couchait. Et j'étais assis dans mon bureau en train de travailler sur mon sermon, à la fin de la journée, à 6h15, 10h et 6h, quelque chose comme cela. J'étais épuisé, je me demandais si on était bien vendredi. Que se passe-t-il? Pourquoi suis-je si fatigué? J'en ai parlé à ma femme qui m'a dit, je vais te faire du café. Parce que j'avais un sermon à faire, il fallait que j'y aille. Je ne pouvais pas rentrer à la maison épuisé. Puis je suis sorti de mon bureau et il faisait 15 degrés de moins dans le couloir. J'ai réalisé que j'étais en quelque sorte la grenouille que l'on faisait cuire dans mon bureau. Mais à ce moment-là, je me suis dit, comment vais-je faire? Mon Dieu, il faut que je prépare un sermon. Et comme Dieu a parfois le sens de l'humour, je suis sorti du bureau, et je me souviens avoir marché jusqu'à la maison et nous avions l'air conditionné. Elle savait que j'étais fatigué et m'a réveillé. J'ai marché et j'ai dit, je me sens très bien maintenant. C'est merveilleux. Vous pouvez entendre Dieu dire, oui, exactement. À ce moment-là, je me suis dit, oh, oh là là, comment vais-je faire? J'ai besoin de ton aide. Je me sens si faible. Donnez-moi quelque chose maintenant. On fait davantage confiance à Dieu quand on voit ses propres faiblesses physiques. Lorsque nous voyons que nous ne pouvons pas faire certaines choses, il devient évident que c'est la puissance de Dieu, l'armure qu'il nous a donnée, qui arrête ses fléchettes, qui arrête ses attaques. Nous savons que ce n'est pas nous. Nous devons faire notre part. Tout le message en parle, mais dans nos faiblesses, dans nos infirmités et dans les problèmes que nous avons, nous comprenons que c'est finalement la puissance de Dieu qui va nous donner la force dont nous avons besoin pour pouvoir combattre le diable. Pas seulement pendant ces 7 jours, mais 365 et, plus un cette année. Nous avons besoin de cette force. C'est ce qui nous aide à le faire. Jean 14. Le chapitre 14 de Jean nous oblige à nous appuyer sur quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose pour nous construire, pour nous fortifier, pour nous donner de la force. Jean 14 et le verset 26. Le verset 26 dit, Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, et que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Consolateur, c'est la clé pour savoir quand nous sommes faibles, nous pouvons être forts, Dieu nous donne son esprit. Nous sommes obligés de compter sur ce consolateur, cette clé qui nous donne la connaissance et la compréhension. Si vous avez vécu à la manière de Dieu pendant un certain temps, vous vous sentez mal à l'aise lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous vous dites « Oh, ce n'est pas bien. Je m'approche un peu trop pour laisser ces choses s'accrocher à moi. Il faut que je me sorte de cette situation, que je m'éloigne de ces gens ou de cet environnement. » Et de poursuivre, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni effrayé. Que votre cœur ne se trouble pas, qu'il n'ait pas peur. Le Consolateur s'en chargera. Nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas troublés. Nous devons nous fier à cet esprit qui nous réconforte. » Revenons à 2e Pierre, chapitre 1. 2e Pierre, chapitre 1. Nous avons déjà lu la lecture de ce chapitre, mais cette fois-ci, l'accent est un peu différent. 2e Pierre, chapitre 1, et verset 8. 1, 8. Car si ces choses sont en vous et qu'elles abondent, elles ne vous rendent ni stériles ni infructueux dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Celui à qui ces choses manquent est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Il a été débarrassé de ce levain. Nous oublions parfois que c'est facile à faire. C'est pourquoi, frères, faites preuve de diligence, d'attention, de détermination pour que votre appel et votre élection soient sûrs. Il s'agit d'une mauvaise traduction qui appelle à la certitude. Nous comprenons ce que cela signifie. Mais élection. Cela signifie sélection. La nouvelle traduction américaine dit que vous êtes appelé et que c'est lui qui vous choisit. C'est une image totalement différente, n'est-ce pas? Dieu nous choisit, vous et moi, dans le cadre de cet appel, pour qu'il soit sûr, pour qu'il soit confiant, pourrait-on dire, qu'il a pris la bonne décision. Et ce que nous comprenons, c'est qu'il l'a fait depuis avant la fondation du monde. Dieu compte beaucoup sur vous, sur moi, sur nous tous. Il a sélectionné un nombre spécifique de personnes depuis la fondation du monde et leur a dit, « Vous savez quoi? Vous n'avez pas seulement besoin, vous pouvez le faire en plus de 8 jours. Les Juifs peuvent. » Je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire ou non. Peut-être que je l'ai fait, mais quelqu'un a entendu l'histoire de la brûlure des comptoirs. Ok, bien. Oh, ce sont juste les gens qui m'ont raconté l'histoire qui ont levé la main. Pour que les Juifs puissent se débarrasser du levain. Ils le font chaque année. C'est un grand drame. En général, ils le vendent, ce qui est hilarant, mais... Ils le vendent donc à leurs parents ou voisins gentils, etc. Ils ont des services en ligne parce qu'ils peuvent gagner un peu d'argent en les vendant. Ce n'est pas un stéréotype, mais gagner un peu d'argent en vendant quoi? Le rabbin a un contrat ici. Mais d'accord, vous vous êtes débarrassé du levain, mais qu'en est-il des molécules de levain? Un autre rabbin propose un service gratuit, je plaisante. Il ne fait rien gratuitement, que vous pouvez payer, il fait entrer un lance-flamme dans la maison et brûle rapidement votre comptoir, sinon il n'y a plus de maison, mais il brûle les comptoirs, l'avant des armoires, ouvre le micro-ondes avec ceux qui brûlent toutes les molécules de pain, parce qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre. Pendant ce temps, des spores flottent dans l'air. Ce serait un agent de levage s'il était. Mais pas sur ce lance-flamme de comptoir. Je ne plaisante pas. Je ne sais pas quel est le rapport avec mon message, mais les Juifs avec les lance-flammes, c'est une belle histoire à raconter. D'accord, je me souviens, encore une fois, de t'avoir choisi. N'importe qui peut donc éliminer le levain physique pendant une semaine et passer complètement à côté de l'essentiel. S'il y a des moments où vous ou moi, ou n'importe lequel d'entre nous, pensons, Dieu pense-t-il vraiment que je peux le faire? Suis-je assez bon pour faire cette marche? Il vous a choisi avant la fondation du monde. Et en vous désélectionnant, nous nous désélectionnons nous-mêmes. Nous disons que Dieu n'avait pas raison. Je sais, Dieu, que tu n'as pu déterminer qui tu voulais choisir qu'avant que l'univers n'existe, mais je suis presque sûr que tu n'as pas voulu me choisir. C'était un accident. C'est une position très arrogante que de dire, vous savez quoi? Dieu a tort. Celui qui a créé l'univers entier. Il t'a choisi, il t'a choisi. Il a pensé à toi, il voulait que tu sois celui qui revête cette armure et qui puisse marcher 365 jours par an en éliminant le péché. N'oublie pas que nous devons connaître nos faiblesses pour pouvoir être forts avec cette armure. Allez à Philippiens. Philippiens, chapitre 1, et nous commencerons au verset 5. Le verset 5 de Philippiens, Élisée. Pour votre communion dans l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, sautez dans le contexte ici au milieu, étant confiant en ceci même, l'antidote à la pensée que Dieu ne vous a pas choisi correctement, que celui qui a commencé une bonne œuvre. Si vous êtes ici ou n'importe où dans le monde que Dieu a appelé, vous met dans son Église, vous travaillez pour le baptême, vous êtes un membre en perspective, vous êtes une jeune personne. L'Esprit de Dieu travaille avec vous, il vous a choisi. Il a commencé une bonne œuvre en vous. Et le verset continue à dire, et il continuera à l'accomplir. Il l'accomplira jusqu'au jour du Christ. Jusqu'à ce que Christ revienne, vous avez la certitude d'avoir été choisi correctement parce que la raison pour laquelle le bouclier doit être prêt, c'est que la chose la plus importante que Satan essaiera de jeter dans votre esprit, c'est le doute. Il le fera en vous faisant douter qu'il s'agit de l'Église de Dieu, puis il s'en servira pour vous faire douter de la Bible, puis de tout ce que vous pensez, voyez, croyez et dont la véracité a été prouvée. Et c'est ce que nous mettons en avant pendant les jours des pains sans levain. C'est ce que l'armure est, c'est pourquoi elle est liée à ces jours. L'Esprit de Dieu nous aidera à combattre ces choses, mais si nous ne connaissons pas nos faiblesses, nous ne connaissons pas les failles de notre armure. Vous pensez que c'est gros, énorme, avez-vous déjà vu un film où ils essaient de combattre un monstre en armure et qui est super puissant comme un dragon? Prenons un dragon. C'est plus facile à imaginer. Et ce dragon peut cracher du feu. Il y a quelqu'un qui sait se servir d'un arc. Il s'approche du dragon, frappe sur son armure et le dragon regarde vers le bas et dit, Ah, ah, tu ne peux pas frapper mon. J'ai une armure. Il les repousse et il s'enfuit, mais celle qui a l'arc va arriver et trouver un moyen de passer à travers l'armure. Ils regardent, s'assoient et disent, Regardez, quand il bouge son bras. Il y a un rabat dans le bras qui fait reculer l'armure. C'est une faiblesse. Inévitablement dans le film, il ou elle, je ne sais pas pourquoi les archers sont toujours des femmes dans mon esprit parce que c'est comme l'agilité, et ils ou elles disent, tirez le coup. C'était ma version de l'agilité. Tirez le coup et puis cela va droit dedans, juste en dessous de la plaque. Oh! Cela tue le dragon parce qu'apparemment, les dragons meurent s'ils sont touchés à l'épaule. Mais il y a un point faible. Il passe sous l'armure, il la traverse. Mais si le dragon comprenait, connaissait la faiblesse, oh, alors le dragon n'aurait jamais laissé tomber son bras, n'est-ce pas? Il l'aurait toujours gardé dans cette position. Si vous et moi connaissons nos faiblesses, nous n'exposerons pas ces parties de notre armure, ces parties de nous qui ne sont pas protégées de la même manière. Nous devons être capables de les comprendre, afin de ne pas être surpris. Nous ne sommes pas frappés par cette flèche qui semble pouvoir trouver son chemin. Quatrièmement, pour avoir une armure solide, il faut développer le discernement spirituel. Quatrièmement, une armure solide exige que nous développions un discernement spirituel. Poursuivons notre analogie avec le dragon. S'agit-il d'un dragon amical ou d'un dragon dangereux? Est-ce un ami? Est-ce un ennemi? Est-il bon ou, quoi qu'il en soit, est-il mauvais? Si vous ne le savez pas, faire ce qui est mal peut être quelque chose que vous trouvez tout à fait normal. Je vais prendre un exemple. Vous vous dites, je ne sais pas ce qu'est le bien ou le mal, alors je vais fumer du crack. Ce n'est pas bon. Mais disons que vous n'avez pas discerné cela qu'il y a. D'accord, c'est un exemple stupide parce que vous et moi pouvons discerner cela. Il est facile pour nous de discerner avec espoir. Mais lorsqu'il s'agit de questions spirituelles, les limites sont parfois un peu floues. Certaines personnes entrent dans la voie de Dieu, elles. D'accord, je ne suis pas censé fumer. Eh bien, quand est-il de l'encens dans ma maison? C'est donc, en quelque sorte, de la fumée dans ma maison. Certains d'entre vous se disent, l'encens, c'est mal. Je ne sais pas. Ce n'est pas le cas. Ça sent mauvais, mais ce n'est pas mauvais. Mais avec ces petites choses, il devient de plus en plus difficile de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est facile, ce qui est large, c'est simple. Hébreux 5. Hébreux chapitre 5. Nous devons discerner. Verset 13. Le verset 13 dit, car quiconque boit du lait n'est pas habile dans la parole de la justice, parce qu'il est un enfant. Nous commençons tous quelque chose de nouveau. Que ce soit votre premier sabbat ou votre centième, ou peu importe depuis combien de temps vous êtes dans la voie de Dieu, quand vous commencez, vous êtes un bébé. Je l'ai déjà dit, je me souviens du premier service. Je peux imaginer les notes dans ma tête. Je ne me souviens pas vraiment. Je crois que c'était en février. Je me souviens donc de deux, je ne me souviens pas très bien de l'autre date, mais c'était le sabbat de février de ce qui aurait été 2001, et la page était blanche. Mais j'ai apporté un carnet de notes parce que je sais que je suis censé prendre des notes et que j'ai quitté l'école et que je prends des notes. J'ai une Bible. C'est ce que je suis censé faire. Et le seul mot sur toute cette feuille était lascivité. Point d'interrogation, parce que j'ai entendu ce mot et je me suis dit, je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée de ce que cela signifie. Je vais donc aller voir ce que cela veut dire quand j'aurai fini. C'est la note que j'ai prise. Cela avait du sens pour moi. J'étais un bébé. Je n'avais aucune idée de ce que j'entendais. Il faut donc que j'aille voir ce que ce mot veut dire. Eh bien, nous commençons tous au moment où nous ne savons pas ce que signifie quelque chose, ou ce qu'est une doctrine, ou comment la prouver dans la Bible. Nous commençons tous comme des enfants. Il n'y a rien de mal à cela, mais nous devons aller plus loin. Verset 14. Les viandes fortes appartiennent à ceux qui sont en pleine force de l'âge, à ceux qui, par l'usage, ont les sens exercés pour discerner le bien et le mal. Repensez au jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est bien d'être capable de comprendre. Ils étaient des enfants, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas capables de discerner la différence lorsqu'ils voulaient y avoir accès. Avec l'Esprit de Dieu aujourd'hui, avec nos parents, ceux qui nous aident, le ministère, et juste en vivant ce mode de vie, en marchant dans cette armure, en voyant des choses cachées et en les faisant tomber, en la polissant, en la reconstruisant, en l'utilisant, Nous commençons à discerner, ce n'est pas un dragon amical, ou je ne suis pas sûr que ce soit une bonne situation dans laquelle se trouver. Mais lorsque nous commençons, nous sommes simplement gros, stupides et heureux. Nous ne savons pas. Je vais raconter une autre histoire. Je raconte toutes mes histoires sur moi-même aujourd'hui. Lors de mon premier séba, le deuxième ou le troisième, j'avais prévu un voyage en Nouvelle-Zélande. Dieu m'a appelé juste avant mon départ pour la Nouvelle-Zélande, je crois que c'était mon troisième séba, et j'ai rencontré un de mes amis qui voyageait autour du monde et nous allions faire de l'escalade en Nouvelle-Zélande. J'y suis resté 2 semaines, donc un séba, 2 séba. Et le premier séba, je n'avais assisté que quelques fois à des cultes, je n'avais aucune idée de la façon de célébrer les cultes, je n'avais pas pensé à me demander, que dois-je faire quand je suis en Nouvelle-Zélande? J'étais juste, grosse, bête et heureuse. J'étais un bébé, parti pour la Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé aux sources thermales, j'ai regardé la télévision pendant le sabbat et je me suis dit, vous savez quoi? Je ne fais pas ce que j'ai à faire parce que ce ne sont pas des choses que je ne ferai jamais parce qu'il n'y a pas de sources thermales au Canada. C'est ce que je pensais à l'époque. Avec le recul, je me dis, à quoi ai-je pensé? Des sources d'eau chaude. La télévision à la demande. Boire une bière comme au milieu de la. Mais je ne faisais pas les choses dans ma tête. Je me disais, oh, c'est ce que je devrais faire. Mais j'étais un bébé et je ne pouvais pas discerner le bien du mal. Vous êtes dans l'église de Dieu depuis un certain temps. Vous pouvez en rire. Vous pouvez dire, d'accord, voyons. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, même s'il n'y a pas de congrégation ou pourquoi prenez-vous des vacances alors que vous ne pouvez pas vous rendre dans une congrégation? Il faut s'assurer d'assister à un séba. Des choses qui sont devenues naturelles au fur et à mesure que l'on vieillit à la manière de Dieu et que l'on est capable de discerner par l'usage. Et lorsque nous sommes en communion, cela nous aide à mieux discerner parce que vous entendez des histoires sur ce que d'autres personnes vivent et parlent de ce que vous vivez et si elles ont vécu ces situations, comment elles les ont résolues, comment elles s'en sont sorties, comment la nuance d'une situation a joué parce que cela les a aidées à y arriver, soit parce qu'elles sont dans l'église depuis un certain temps, soit parce que vous êtes nouveau, ou vice-versa, ou simplement par expérience, elles ont été capables de voir les choses. Allez à Proverbe 27. Proverbe, chapitre 27. Cela fait une grande différence lorsque nous nous entourons de personnes qui partagent les mêmes idées, parce qu'il est dit dans Proverbe 27, verset 17, « Le fer aiguise le fer ». C'est un verset simple. Nous le lisons tout le temps. C'est l'un des aspects clés du Spokesman Club, mais ainsi un homme, continuant, un homme aiguise le visage de son ami. Travailler ensemble avec d'autres chrétiens nous rend plus aiguisés, plus efficaces. Il rend notre armure plus rigide, plus dure, plus résistante. Même s'il s'agit simplement de se réunir le jour du sabbat ou les jours saints, et pour revenir à ce que nous avons dit plus tôt, les jours des pains levés nous mettent en contact les uns avec les autres bien plus souvent que nous ne le ferions en temps normal. La seule autre période de l'année où cela se produit est la fête des tabernacles, mais il est beaucoup plus probable de parcourir une certaine distance, de se réunir un jour saint, d'avoir ce service du matin et de l'après-midi, comme nous l'avons ici, le dîner dansant au milieu du sabbat, et ensuite le dernier jour des pains sans levain. Tout cela se construit mutuellement parce que vous racontez des histoires, surtout si vous avez voyagé et visité. Oh, je ne t'ai pas vu depuis un moment, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait cela, 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 oh, j'ai eu des ennuis, j'ai eu cette lutte et je l'ai surmontée. Et tout cela, c'est du fer qui aiguise le fer, qui nous rend plus tranchants, qui nous fait nous souvenir qu'il n'y a pas que l'armure, nous portons aussi une épée. Elle rend cette épée plus tranchante parce qu'en parlant des voies de Dieu, nous comprenons ce que ce livre nous enseigne. Et nous pouvons l'appliquer dans des situations pratiques réelles auxquelles nous n'aurions peut-être pas pensé si nous n'étions pas en train d'aiguiser le visage de nos amis. Deuxième Corinthiens. Deuxième Corinthiens, chapitre 13. Allons-y. Je vais vous faire sauter au psaume 13, 9. Pardonnez-moi. Vous pouvez lire le chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens, de 5 à 8, plus tard, si vous le souhaitez, mais passons au psaume 13, 9. Encore une fois, souvenez-vous que nous avons besoin de discernement spirituel. Nous pouvons l'obtenir de la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu. Nous pouvons l'obtenir les uns des autres, en nous renforçant, en nous fortifiant, ou nous pouvons l'obtenir d'une autre manière. 1.39 et le verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Verset 23. Mettez-moi à l'épreuve, connaissez mes pensées, voyez s'il y a en moi quelque mauvaise voie, et conduisez-moi, guidez-moi, dirigez-moi, donnez-moi un chemin qui me conduise dans la voie de l'éternité. Nous pouvons obtenir le discernement du conseil à partir de la Bible. Nous pouvons l'obtenir par la prière et par Dieu qui guide nos vies, ou par nos amis, mais de préférence nous l'obtenons par tous ces moyens. Tous ces aspects nous aident, comme le disent les proverbes, à aiguiser notre visage, afin que nous soyons plus efficaces, plus utiles. Romains 12. Pour conclure. Romains, chapitre 12. C'est l'objectif du discernement. Rappelez-vous, une armure solide exige que nous développions un discernement spirituel. Vous vous comporterez différemment selon qu'il s'agit d'un ennemi, d'un agresseur ou d'un ami. Romains 12 et verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, car c'est là votre service raisonnable. Le sacrifice est ce que nous devons faire. C'est l'entrée de base dans le christianisme. Au verset 2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, parce que nous gardons cette intelligence, nous avons gardé notre intelligence, nous l'avons gardée pure, afin que vous puissiez éprouver quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Disons-le autrement, pour être en mesure de prouver ce qui est bon, acceptable et parfait en matière de discernement spirituel. Parce qu'alors nous savons, avant d'entrer dans un problème, que nous nous approchons du problème. Nous savons que nous devons lever notre épée et notre bouclier. Nous savons que nous devons placer notre armure. Nous savons que nous devons être prêts à utiliser les outils que Dieu nous a donnés avant de nous enfoncer trop profondément. La volonté parfaite de Dieu. C'est le quatrième point. Cinquièmement, nous devenons plus forts à l'usage. Notre armure spirituelle devient plus forte à l'usage, parce que vous pourriez ajouter, en quelque sorte, un sous-point à cela, vous et moi passerons par le combat spirituel chaque jour, en particulier une fois que ces jours seront terminés. Une fois le soleil couché, nous retournons à nos emplois normaux, à nos vies normales, le jour saint est terminé, nous nous embrassons et nous nous disons au revoir, et tout revient à la normale. Le travail que nous avons accompli au cours des 7 ou 8 derniers jours a fait une grande différence, mais nous devons continuer à l'utiliser. C'est la même chose que pour l'exercice d'un muscle. Vous l'utilisez, vous le développez, il devient plus fort. Et vous apprenez, dans d'autres domaines, à faire confiance à l'équipement dont vous disposez lorsque vous l'utilisez. Si vous enfilez cette épée et cette vieille armure, la première fois que vous marchez, vous l'imitez probablement, vous ressemblez probablement à ce que j'ai fait, clunk, 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 mais avec le temps, vous savez comment elle bouge, vous savez comment l'esquiver, utilisez l'épée, utilisez le bouclier, et vous êtes capable de l'utiliser. C'est ce que l'on trouve dans de nombreux domaines. Je reprendrai l'exemple de l'escalade. Voilà ce qui se passe. La première fois, vous n'êtes pas très sûr de vous. Vous avez cette toute petite corde que vous avez attachée à votre harnais et, disons que vous pratiquez l'escalade ou autre chose, on tire sur la corde et vous grimpez et vous avez des chaussures qui arrivent à un certain point, vous vous prenez les orteils et d'autres choses. Vous ne savez pas vraiment comment les utiliser, et le nombre de fois où vos pieds glissent, où vos doigts glissent, où vous avez une peur bleue du fait que si je tombe, cette corde va se rompre parce que la première fois que vous le faites, vous pensez que la corde va se rompre. Vous arrivez à 6 mètres de haut et vous vous dites, cette toute petite chose va m'empêcher de mourir. Mais on commence à grimper de plus en plus et on change. Vous commencez à grimper en tête, donc vous tirez la corde. Vous commencez à comprendre votre équipement. Vous savez que ce harnais est conçu pour quelqu'un de beaucoup plus lourd que vous, avant qu'il ne se brise. Vous savez que cette corde peut supporter un poids de 1000 livres. Vous connaissez les détails. Vous savez comment fonctionnent vos mousquetons. Vous connaissez l'écartement. Vous commencez à faire confiance à votre équipement en l'utilisant. La seule façon de lui faire confiance est de l'utiliser. Quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez. Si vous travaillez à l'extérieur avec un skid steer, vous n'y allez pas dès la première fois en vous disant, d'accord, je fais des tours de roue avec ce truc parce que je sais ce que je fais. Non, on l'utilise et avec le temps, on se sent à l'aise. Et avec un skid steer ou un bobcat, vous pouvez voir ces vidéos où ils roulent sur leur roue arrière. Personne n'est certifié par l'OSHA pour faire cela ici. Mais ils se déplacent sur leur roue arrière, sur de petits parcours et ainsi de suite, parce qu'à force d'utilisation, ils se sentent à l'aise. Ils se sentent à l'aise avec leurs outils. Allez à la deuxième partie des Corinthiens, chapitre 10. Deuxième Corinthiens, chapitre 10, et nous commencerons au verset 3. Le verset 3 dit, si nous marchons dans la chair, ce n'est pas dans la chair que nous combattons. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour abattre les forteresses, les châteaux, les aspects fortifiés de notre esprit, pour renverser les imaginations. Rappelez-vous, ce n'est pas à des choses physiques que nous avons affaire, mais l'analogie physique du levain est le fait de faire tout ce que nous avons fait avec le pain sans levain, et tout au long de ces jours, nous aide, mais c'est dans notre esprit, nos imaginations, toutes choses qui s'élèvent, en continuant, contre la connaissance de Dieu et en ramenant en captivité toute pensée. Il faut une sacrée armure pour pouvoir tout arrêter. Nous devons vraiment travailler, utiliser et développer toute pensée pour l'obéissance de Dieu. Nous devons continuer à utiliser tous les outils du christianisme, les outils de la croissance chrétienne, la prière, le jeûne, la méditation, etc. Mais plus nous utilisons notre armure, plus nous la comprenons, plus elle devient une seconde nature. Ce n'est pas comme un bouclier à photons ou un bouclier déflecteur qui reçoit trop d'attaques et qui dit, oh, les boucliers ne sont plus que 40. Je ne vais pas reprendre l'accent. Et non, nos boucliers, nos armures deviennent plus efficaces avec l'usage. C'est le contraire. Et vous et moi avons pris des habitudes tout au long des jours des pains sans levain pour pouvoir repousser le péché dans nos vies, pour pouvoir savoir ce que la cuirasse peut supporter, savoir ce que les chaussures peuvent supporter, Savoir que nous sommes ceints de la vérité. Nous sommes différents. Repenser à Hébreux 5. Nous lisons qu'à l'usage, nous pouvons discerner le bien et le mal. Par l'usage. Allez à la deuxième Timothée, puisque nous terminons ici. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 1. Commencez au début du chapitre. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon fils, et vous dites les filles ou nous tous dans la salle, sois fort dans la grâce qui est dans Christ Jésus. Ce que tu as entendu de moi par plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Vous donc, supportez la dureté, allez au combat, utilisez l'armure de Dieu, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme qui se mêle des affaires de ce monde ne garde son cœur pur. Il garde son esprit pur. Il ne se laisse pas troubler et distraire par les soucis, les affaires, les choses de ce monde. Il poursuit, afin de plaire à celui qu'il a choisi pour être soldat. Et si quelqu'un s'efforce d'obtenir des maîtrises, il n'est pas couronné, s'il ne s'efforce pas avec droiture. Nous devons faire notre travail chaque jour. Nous devons continuer à avancer. Nous devons continuer à fortifier notre armure. Nous devons faire chaque pas en avant en construisant et en renforçant ce que nous sommes, ce que Dieu nous a donné. Un soldat doit marcher jusqu'à la fin de la bataille. Il doit continuer à avancer. Pour nous, c'est un peu différent. Nous n'allons pas à la base en sachant, ou en nous attendant, ou en pensant que nous pourrions mourir. Non, comme vous et moi, en tant que soldats, nous devons revêtir cette armure et la porter dans la patience avec l'espoir, rappelez-vous le casque, l'espoir du salut à venir. Pour la plupart, pour beaucoup, je dis bien pour la plupart, pendant des milliers d'années, ils ont dû porter cette armure, ils ont dû la renforcer et l'entretenir, passer par les jours des pains sans levain encore et encore tout au long de leur vie, jusqu'au moment de la mort. Et certains devront le faire à l'avenir, mais pas vous et moi, si nous sommes prêts, si nous nous concentrons, si nous utilisons ces jours maintenant. Vous avez donc obtenu la réponse à votre question, cette question brûlante sur les boucliers déflecteurs. Vous les comprenez maintenant, mais nous savons que les boucliers déflecteurs ou les armures corporelles ne sont pas ce contre quoi nous nous battons. Vous et moi avons passé 7 jours à fortifier notre armure spirituelle, mais maintenant que les jours sont passés, que nous sommes proches du but, nous ne pouvons pas baisser notre garde. Nous ne pouvons pas arrêter de la construire. Nous devons être disciplinés. Nous devons l'améliorer, la renforcer, la fortifier, l'entretenir, l'améliorer et être diligents dans tous les domaines spirituels. C'est parce que, alors que vous et moi poursuivons notre voyage au-delà des jours des pains sans levain, nous devons utiliser chaque moment que Dieu nous a donné pour nous rapprocher de lui, pour construire cette armure et pour ressembler davantage à Jésus-Christ. Alors, frères, profitez de chaque jour. Rachetez le temps. Résistez au péché. Marchez avec confiance sur le chemin en tant que soldat chrétien, en éliminant le péché de nos vies chaque jour jusqu'au retour de Jésus-Christ.